6h44 en temps universel. Un œil tout de suite sur les grands titres de l'info.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roel.
Et à la une, il propose une administration transitoire sous l'égide de l'ONU en Ukraine et affirme que la Russie a l'initiative stratégique sur tout le front. Vladimir Poutine persiste et signe ce matin au lendemain d'un sommet à Paris de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Une trentaine de pays réunis autour de la France, de la Grande-Bretagne et de Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron annonce une force de réassurance pour l'Ukraine qui ne sera pas une mission de maintien de la paix. Encore beaucoup de questions et peu de réponses. Reconnaît le président ukrainien. À la une également l'armée israélienne qui affirme que ce matin des projectiles ont été tirés depuis le Liban vers Israël. Nous agirons avec force face à toute menace, affirme le ministre de la Défense, alors que le président libanais Joseph Aoun se rend à Paris aujourd'hui. Dans la région, des sources palestiniennes proches du Hamas affirment que les négociations ont repris hier entre le mouvement palestinien et des médiateurs égyptiens et qatariens pour relancer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La trêve a été rompu par Israël le 18 mars. L'aide humanitaire est bloquée depuis le 2 mars et l'ONU affirme qu'il ne lui reste plus que 2 semaines de stock. Dans un quart d'heure, le journal et le deuxième volet du Gaza Project, enquête conjointe de 12 médias, dont RFI, sous la houlette de Forbidden Stories. En Birmanie, un séisme de magnitude 7,72 et de fortes secousses ressenties également à Bangkok. En Thaïlande, les bureaux et magasins ont été évacués. Et puis en France, le parquet financier requiert 7 années de prison contre Nicolas Sarkozy, l'ancien président français accusé d'avoir noué un pacte de corruption avec l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi pour qu'il finance sa campagne présidentielle de 2007. Les plaidoiries de la défense vont commencer, les décisions seront rendues dans quelques mois. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Julien.
La revue de la presse africaine avec vous et à la une ce matin, Boualem Sansal, prisonnier des tensions entre Paris et Alger.
Oui, 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars, environ 3500 euros. Une condamnation pour avoir franchi la ligne rouge, résume Algérie 360, une conséquence directe des prises de position de l'écrivain franco-algérien et de ses actes jugés contraires aux intérêts du pays, répète encore le site d'information qui voilà la fin d'un feuilleton judiciaire qui avait débuté en novembre. Boualem est condamné. Circuler, il n'y a plus rien à voir.
Au contraire, la condamnation de l'écrivain au terme d'un procès express, 20 minutes en tout et pour tout, il y a une semaine, est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase.
Oui, parce qu'elle vient compléter la liste des tensions entre Paris et Alger que dresse le journal burkinabé Le Pays, après, entre autres, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dans la bouche d'Emmanuel Macron, et la liste d'Algériens dangereux à expulser du territoire français, adressé par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Tout porte à croire que Boualem Sansal paye moins pour la faute qu'il aurait commise que pour le soutien politique que lui apporte la France, analyse le média, qui va jusqu'à se demander si l'écrivain ne serait pas le mouton de sacrifice du Ramadan. Ce qui laisse penser, poursuit Le Pays, qu'un éventuel réchauffement des relations entre Paris et Alger pourrait profiter aux prisonniers. L'optimisme est donc permis puisque les deux parties sont conscientes qu'elles ont plus à perdre qu'à gagner en laissant perdurer leur animosité.
La préparation d'une visite en Algérie de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est perçue comme un pas vers l'apaisement après 8 mois de crise.
Oui, c'est ce que souligne Afrique.com. Les dernières déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé à un retour au dialogue avec Emmanuel Macron, tranchent avec la surenchère de certains responsables français. Balle perdue pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, décrié pour ses immixtions dans les dossiers diplomatiques et accusé de faire de la crise algérienne un tremplin électoral avant 2027, date des présidentielles de l'Hexagone. La volonté de pacification, conclut-il, l'emporte sur les tentations de surenchère politique et pourrait signer la fin de la spirale des tensions.
Dans ce contexte, la grâce de l'écrivain Boualem Sansal pourrait même être un levier de décrispation des relations entre Paris et Alger.
Oui, c'est en tout cas l'hypothèse qu'avance Le Point Afrique, qui préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. D'abord, la peine dont hérite Boualem Sansal est moitié moins lourde que ce qu'avait requis le procureur la semaine dernière. Ensuite, la requalification des faits qui lui sont reprochés en délit plutôt qu'en crime pourrait être une marque d'apaisement, d'après le bâtonnier d'Alger, Mohamed Baghdadi, dont l'hebdomadaire relaie les propos. L'idée qui circule à Alger, rapporte un autre avocat algérois, toujours dans les pages du Point Afrique, est de faire vite condamner Sansal pour ouvrir la voie à une grâce présidentielle, à condition que ni le parquet ni le condamné ne fassent appel.
Et même analyse dans les colonnes du Matin d'Algérie, ce procès organisé à la va-vite constitue une porte de sortie pour le pouvoir.
Le pouvoir qui, sans doute, ne s'attendait pas à une telle levée de bouclier depuis l'arrestation de cet écrivain, estime le site d'information d'opposition. La rapidité du traitement du cas Sansal est plutôt une bonne nouvelle en comparaison à d'autres militants dont la détention provisoire s'éternise et qui voient leur procès sans cesse ajourné. Le quotidien rappelle d'ailleurs en une ce vendredi les noms des militants, journalistes et activistes qui ont été arrêtés, emprisonnés, voire condamnés pour des faits aussi insignifiants que l'expression de leur opinion sur les réseaux sociaux ou la participation à des manifestations pacifiques. La colère qu'on sent jaillir de la plume de la rédaction tient en une phrase. L'Algérie est devenue la risée du monde. L'attention portée au cas de répression de ces voix dissidentes est donc plus que jamais nécessaire.
La revue de la presse africaine, Amélie Beaucourt, merci beaucoup et à tout à l'heure, 7h15, temps universel, pour le tour de la presse internationale. Je suis l'alternative unique qui reste au Gabonais face aux militaires. Les mots ce matin de notre grand invité Afrique à 15 jours tout juste de l'élection présidentielle au Gabon. Avant-hier, vous entendiez à cette heure-ci le président de la transition et candidat Brice Clotaire-Oligui Nguema. Ce matin, c'est son principal adversaire qui s'exprime sur RFI, l'opposant et ancien premier ministre Alain-Claude Bilibinzé. Que pense-t-il de la gestion du Gabon depuis 19 mois par les militaires du CTRI, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions? Il nous répond à Libreville, au micro de Christophe Boisbouvier.
Alain-Claude Bilibinzé, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ce n'est pas compliqué de faire campagne quand on a été le dernier Premier ministre d'un régime honni par une grande majorité de Gabonais?
Ça aurait pu être compliqué en effet, mais aujourd'hui les Gabonais constatent que tous ceux qui ont accompagné Omar Bongo, Ali Bongo, dans le cas du régime dit Bongo PDG, sont aujourd'hui avec le dirigeant de la transition. Il s'agit donc d'une continuité de ce régime que les Gabonais détestent et qu'ils voient aujourd'hui ressurgir derrière les traits du CTRI. Le CTRI est une esbrouffe, le CTRI a menti aux Gabonais et derrière le CTRI, il y a le PDG.
Est-ce à dire que vous reniez votre propre passé et l'époque où vous avez été très longtemps dans les gouvernements d'Ali Bongo?
J'ai été 8 ans dans les gouvernements d'Ali Bongo. Je ne renie rien de cela. J'ai reconnu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Ce que je refuse, c'est de continuer le même système. Or, aujourd'hui, ce qui est en place, c'est la continuité du même système à tous les étages. Présidence de la République, institutions, gouvernement, gouvernance, c'est ce que j'appelle la République des copains, coquins et consanguins. Et je refuse cela.
Depuis le lancement de votre campagne, Alain-Claude Bilibinzé, vous réclamez un procès pour Sylvia et Nourdine Bongo, qui sont en prison depuis le 30 août 2023. Et apparemment, vous avez été entendu, puisqu'au micro de RFI et France 24, le président de la transition vient de déclarer que ces deux personnes auraient droit à un procès juste et équitable. Est-ce que vous êtes satisfait?
Ce que j'ai réclamé, c'est justement de faire en sorte que personne ne soit détenu illégalement sans aucun procès. Et je constate que le président de la transition connaît le dossier, puisqu'il en a parlé, il a donc accès au dossier, ce qui naturellement est une hérésie dans un état de droit.
Mais vous êtes satisfait quand même qu'il ait dit qu'il y aura un procès?
J'attends de voir.
Alors, dans cette présidentielle du 12 avril prochain, il y a 8 candidats, mais seulement 2 poids lourds de la politique gabonaise, le président de la transition et vous-même. Que pensez-vous de l'exclusion d'autres grandes figures comme le professeur Ondoossa, Pierre Claver Maganga Moussavou ou le syndicaliste Jean-Rémi Yama?
J'estime que pour un retour à l'ordre conditionnel, il aurait fallu ouvrir le champ démocratique, permettre à tous les Gabonais qui le désiraient de proposer une offre politique réelle. Ce qui s'est produit en réalité, c'est que le général et ses amis ont voulu exclure un maximum de personnes. Ils auraient bien voulu m'exclure moi. Malheureusement, tous les critères qu'ils avaient imaginés, j'ai coché toutes les cases pour ne pas succomber à cela. Je ne pense pas que nous réussissons à construire une démocratie par l'exclusion. D'exclure les Gabonais sur la base de leur âge, sur la base de leur mariage, sur la base de leur état physique, ce n'est pas cela une démocratie. Et nous sommes aujourd'hui en péril dans notre pays et nous sommes là pour allumer cette nouvelle espérance, moi, Alain-Claude Bilibinzé.
Est-ce à dire que vous êtes en discussion avec certaines de ces personnalités exclues en vue d'une plateforme commune pour le 12 avril?
Il y a des discussions. Nous souhaitons qu'il y ait une plateforme commune le 12 avril. Ce que je sais, par ailleurs, c'est que cette plateforme ne doit pas se mettre sur la question des personnes. Il faut la bâtir sur le projet de rupture avec l'ordre ancien, rupture avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, que c'est un système qui refuse de mourir et qui revient sous une autre forme.
Vous êtes en discussion avec qui?
Je pense que les discussions n'ont pas encore abouti. Permettez que je ne révèle pas pour le moment.
Alors, certains observateurs disent que le général Oligui a volontairement écarté tous les poids lourds de la politique gabonaise, sauf vous. parce que vu votre passé, vous ne risquez pas de le mettre en ballotage.
Il a écarté un certain nombre d'acteurs pour éviter le ballotage précisément. Je pense que d'avoir évité la candidature de Jean-Rémi Yama ou de M. Ongundu, ça a été une manière pour lui de s'assurer qu'il n'y aura pas un deuxième tour. Mais il se trompe. Ceux qui auraient voulu voter pour Jean-Rémi Yama ne voteraient pas pour lui. Ceux qui auraient voulu voter pour M. Ongundu ne voteraient pas pour lui. Aujourd'hui, je suis l'alternative unique qui reste aujourd'hui pour les Gabonaises et les Gabonais face aux militaires qui, depuis 19 mois, sont dans l'enfumage et le mensonge.
Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'en acceptant d'être candidat, vous acceptez de servir de caution démocratique pour cette élection ?
Je suis candidat parce que j'ai un parcours politique, j'ai une expérience politique qui me permet aujourd'hui de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais une offre différente. Je voudrais dire que le général Oligui est dans le système depuis Omar Bongo. Il n'est pas un homme neuf et tout ce qui l'entoure aujourd'hui, ce sont des hommes anciens, du système ancien. Malheureusement, il essaie de montrer aux Gabonais un visage différent, mais les Gabonais seront fait la part des choses et aujourd'hui, il est temps de mettre un terme à ce système.
Donc vous espérez un deuxième tour ?
Donc j'espère gagner l'élection.
Monsieur le Premier ministre, merci.
L'ancien Premier ministre gabonais, candidat d'opposition à la présidentielle, Alain-Claude Bilibinzé, invité RFI de Christophe Boisbouvier à Libreville, avec les moyens techniques de Jadel Koury. Bientôt 7h en temps universel. Avant le journal sur RFI, votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte. Avec vous, Charlotte Ntamak. Vous nous parlez ce matin des riches, des pauvres, mais aussi des riches pauvres et des pauvres riches.
Oui, entre les notions de riches et de pauvres, on se perd parfois car il y a aussi les riches pauvres et les pauvres riches. Le pauvre riche, c'est ce pauvre que si l'on ne te dit pas qu'il est pauvre, tu le prendrais pour un riche. Je dis, hein, ce n'est pas le type si qui hier en boîte lavait les mains avec le champagne. Donc, il habite même au sous-quartier. Laisse, c'est un riche occasionnel. Quand tu le vois, c'est qu'il a un peu. Dès que l'argent qu'il a là va finir, tu vas encore le voir où? Il va seulement réapparaître quand il aura encore un peu. Le pauvre a compris que pour paraître riche, rien de mieux que le paraître. Man, tu gagnes autant d'argent. C'est seulement la vie de Pacha dans les hôtels et les voitures de location. Joe, tu sais que même quand tu es pauvre, si tu t'es déjà habitué à vivre comme un riche, quand tu deviens riche vrai, la richesse ne peut plus te surprendre. Hé, hey, Mako, moi je ne peux pas manger le caviar et boire le champagne alors que je ne sais pas si je peux encore m'offrir ça demain. Hein? Si ta co est lourde et qu'elle t'invite dans un restaurant de riches, ton problème c'est quoi? Mange seulement, hein? Laisse-nous les raisonnements du quartier là. Ça c'est la pauvreté d'esprit. Il y a des pauvres qui, à force de jouer les riches, commencent à se croire riches et d'autres qui inventent d'autres formes de richesse, de consolation qui n'existent que dans le monde des pauvres. Ah, mon frère, même si je n'ai pas un franc, si j'ai la santé, j'ai à manger et je peux boire une bière, ce n'est pas la richesse. Mako, même comme je suis sans emploi, sans maison et sans mari, là, moi je ne suis pas pauvre. Hein. Mes 13 enfants, c'est aussi ma part de richesse, non? Le riche pauvre, quant à lui, est un riche qui, malgré sa richesse, paraît pauvre. Je dis, hein, ça c'est même quel genre de riche, non? Avec tout l'argent là, il s'habille toujours comme s'il partait au champ. Hein? Vous êtes sûr que lui-même il est au courant qu'il est riche? Le riche pauvre par sa chicheté, qu'il veut faire passer pour de la simplicité, manque de respect à la richesse et montre une mauvaise image du riche. L'argent souffre dans son porte-monnaie, étouffe dans son coffre-fort, suffoque dans son compte en banque. Mako, j'ai dit, hein, c'est même quel riche ça? Tu la vois entrer dans ta boutique, tu te dis que « Merci Seigneur, ma vie va changer ». Façon qu'elle discute les prix, même une pauvre ne discute pas comme ça. Dieu a même confondu la personne à qui il voulait donner la richesse là. Devenir riche, oui, mais pourquoi si c'est pour vivre comme un pauvre? Demeurer pauvre, d'accord, mais pourquoi pas vivre même pour un jour une vie de riche, hein? À vendredi.
À vendredi, Charlotte, et merci. Bienvenue à vous sur RFI si vous nous rejoignez en ce vendredi matin. Il est bientôt 8h à Paris et le journal, c'est dans 2 minutes. À tout de suite.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forrest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Julia Trangeval.
Cisjordanie occupée, bande de Gaza, Palestine, que recouvrent ces dénominations ? Il est parfois difficile de s'y retrouver dans cette géographie marquée par la politique, le droit et l'histoire, avec pour chaque zone concernée une réalité un peu différente.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Julia Trangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Marjorie Bertin.
Aventurière, polyglotte, archéologue, mais aussi espionne et alpiniste, Gertrude Bell a vraiment existé. Dans le Pacte du désert, Roselyne Febvre nous raconte l'existence de l'Angleterre à la Syrie, de cette aventurière hors pair et morte en 1926.
Sur le Pont des Arts, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.